avec les CFF et le TCS.
Le temps sera passablement nuageux et généralement sec au nord des Alpes aujourd'hui avec des éclaircies par moment. En Valais centrale et dans le Haut-Valais, un temps probablement encore assez ensoleillé malgré des voiles de nuages élevés. Les températures 2 à 5 degrés ce matin, jusqu'à 10 cet après-midi.
La météo avec le Gruyère AOP et Gastrovo, vos partenaires des peintes ouvertes du 5 au 7 décembre.
Lundi 18 novembre, il est 7h.
RTS Info, la matinale.
Très bon début de semaine à vous. Bienvenue dans la matinale à la une ce matin. Ce changement stratégique majeur dans la guerre en Ukraine. Washington autorise Kiev à utiliser des missiles longue portée pour frapper la Russie. Volodymyr Zelensky le demandait depuis longtemps. Joe Biden a fini par dire oui. Pourquoi maintenant et qu'est-ce que ça change? Notre correspondant aux États-Unis, Jordan Davis, dans un instant. Et l'historien militaire Cédric Masse à 7h15. Bonjour Frédéric Mameis.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Les autres titres.
C'est une image qui en dit long, Joe Biden survolant l'Amazonie en hélicoptère pour venir dire à Donald Trump de ne pas oublier le climat avant le démarrage du G20, c'est au Brésil. Le climat qui se joue aussi en Azerbaïdjan, nous retrouverons notre envoyé spécial à Bakou, où c'est une affaire de gros sous qui fait piétiner la COP29. L'actualité ce matin, c'est aussi la police fribourgeoise empêchée d'utiliser de nouvelles caméras de surveillance. Et la série la plus regardée sur Netflix revient avec une deuxième saison, Squid Game. Qu'est-ce qui vous attendra dès le 26 décembre ? Réponse en fin de journal.
Guy Parmelin est l'invité de cette matinale. Conseiller fédéral, ministre de l'économie, la Suisse qui a mal à son industrie, Swiss Steel, Stahlgerlafingen, voilà pour l'acier, mais aussi Migros, La Poste, Tamedia, partout on licencie. La Suisse est-elle en voie de désindustrialisation? Rendez-vous avec lui 7h30.
Bientôt 1000 jours de guerre en Ukraine et 1001 nuits d'attaques. Hier soir, des missiles russes ont encore touché des infrastructures énergétiques. Mais c'est peut-être une étape stratégique qui a été prise. Les États-Unis ont donné le feu vert à l'Ukraine de frapper des cibles en Russie avec des missiles à longue portée de fabrication américaine. Selon les médias outre-Atlantique, il s'agirait de frappes limitées. Jordan Davis, vous êtes à Washington où l'administration Biden cède enfin à une vieille demande de Kiev. Mais pourquoi maintenant ?
Bon, selon plusieurs médias briefés par des sources proches de l'administration, il s'agit d'appuyer les forces ukrainiennes qui font une incursion sur le territoire russe dans la région de Koursk en déployant ces missiles surnommés Atakams contre des cibles plus éloignées sur le territoire russe. L'Ukraine devrait pouvoir mieux défendre ses propres positions. Ce feu vert à l'utilisation de ces missiles est aussi une réplique à l'arrivée de milliers de troupes nord-coréennes dans la région de Koursk le mois dernier. Leur déploiement a choqué l'administration Biden et les alliés européens aussi d'ailleurs. Et il ne voulait pas laisser ça sans réponse.
Jordan, les États-Unis étaient jusqu'ici réticents à employer ces missiles sur le territoire russe, de peur de provoquer une escalade.
Oui, il est vrai que Vladimir Poutine avait dit que des frappes de missiles à longue portée sur le sol russe représentaient justement une ligne rouge. L'administration Biden d'ailleurs semble divisée sur le sérieux qu'il faut accorder à ce genre de menace. Et depuis le début de la guerre, on a vu la Maison-Blanche a été plutôt conservatrice en armant l'Ukraine, en bloquant pendant des mois la livraison de batteries antimissiles ou de F-16, de peur d'une réaction russe, une réaction qui ne s'est jamais matérialisée.
Et comment le changement de locataire à la Maison-Blanche dans 2 mois pèse sur les calculs stratégiques de l'administration Biden ?
En effet, parce que Donald Trump avait fait campagne en disant qu'il allait mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour. Les détails de son approche ne sont pas vraiment explicités en ce moment, mais l'aide militaire à l'Ukraine va vraisemblablement se tarir et une fin négociée de cette guerre causée par l'invasion russe semble être l'issue probable. Donc d'ici là, l'administration Biden tente de renforcer la position ukrainienne. Si Kiev occupe à son tour une partie de la Russie, ça permettra aux Ukrainiens d'avoir des cartes en main au moment des négociations.
Merci Jordan Davis en direct de Washington. Et Joe Biden est le premier président américain à se rendre en Amazonie. Hier, il a volé jusqu'à Manaus, au cœur de la forêt tropicale, pour adresser ce message.
The fight to protect our planet is literally a fight for humanity, for generations to come. It may be the only existential threat.
Le combat pour protéger notre planète est littéralement un combat pour l'humanité, pour les générations à venir. Joe Biden au Brésil pour le sommet des dirigeants du G20, 20 pays parmi les plus développés au monde, mais 2 hommes seulement en vue, ou presque, l'actuel et le prochain président américain. La transition du pouvoir aux États-Unis menace de paralyser un sommet qui manquait déjà de ligne claire à nous corriger.
Si le président Joe Biden est présent à Rio de Janeiro, c'est bel et bien Donald Trump qui va dicter la politique américaine ces 4 prochaines années. Même en son absence, ses promesses de campagne vont nécessairement influencer l'agenda du G20, déjà miné par les divergences idéologiques. Le président brésilien Lula veut que ce sommet soit social et écologique, mais ces thèmes risquent d'être éclipsés par les nouvelles lignes qui se dégagent déjà du côté de Washington. Et notamment les barrières douanières qui menacent particulièrement les économies émergentes en Amérique latine et ailleurs. Une aubaine pour le président Xi Jinping qui a aussi fait le déplacement. La Chine pourrait profiter économiquement mais aussi diplomatiquement. Les pays du Sud, en se détournant des États-Unis, se rapprocheraient encore de Pékin. Sur les sujets qui fâchent, comme les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, certains ambitionnent de tracer une troisième voie. Au vu de la complexité des relations géopolitiques, on peut douter que le G20 adopte une position commune.
Et des sujets qui fâchent, il y en a aussi en Azerbaïdjan où la conférence de l'ONU sur le climat, la COP29, entre dans sa deuxième semaine. Bonjour Cléa Favre.
Bonjour.
On vous retrouve à Bakou où les discussions semblent tourner en rond.
Les négociations s'enlisent ici au stade olympique de la capitale, transformé en gigantesque salle de conférence et où grouillent délégations officielles et médias dans des dédales de préfabriqués. En ce lundi, les discussions techniques auraient dû aboutir à une sorte de brouillon de l'accord final, appelé dans le jargon onusien « nouvel objectif collectif quantifié », plus simplement dit l'enveloppe destinée à lutter contre la crise climatique. Les grandes lignes auraient dû être mises aux ministres des 200 États participants. Ceci n'aurait eu qu'à peaufiner les détails. Mais si je parle au conditionnel passé, c'est pour une bonne raison. Les choses ne se passent pas comme prévu. On est plutôt au stade de brouillon du brouillon. 25 pages avec une multitude d'options souvent incompatibles.
Le conditionnel passé. Mais alors qu'est-ce qui complique cette conférence sur le climat ?
Toujours ces histoires d'argent. Les pays riches sont censés signer un gros chèque. Objectif permettre aux États pauvres d'affronter les conséquences du dérèglement climatique tout en réduisant leurs émissions carbone. Et c'est le montant de ce chèque qui crispe les délégations. Aujourd'hui, le club des pays industrialisés met à disposition 100 milliards de dollars par année, essentiellement sous forme de prêts. Les pays pauvres exigent 10 à 20 fois plus. Le Nord parle de sommes irréalistes et milite pour puiser ailleurs, auprès de nouveaux contributeurs comme la Chine ou le secteur privé.
Alors ça bloque, mais est-ce qu'on se dirigerait, Cléa, vers un échec de cette COP29 ?
Ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux de cette COP ne sont pas en place, ce qui met une pression folle sur cette semaine. Mais il reste 5 jours, l'espoir est encore permis. Il se murmure ici que dans le secret des négociations, le tableau est moins sombre qu'il n'y paraît.
Cléa Favre, en direct de Bakou à la COP29.
Et si la Suisse tentait une nouvelle fois de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis ?
Comme une Arlésienne relancée lors de la première présidence de Donald Trump, la discussion s'était arrêtée après l'élection de Joe Biden en 2021. Alors forcément, le retour du républicain à la Maison-Blanche ravive les espoirs des partisans d'un tel accord. Marielle Savoie.
C'est l'UDC Magdalena Martulou-Blocher qui a relancé le débat la semaine dernière dans la presse. La conseillère nationale grisonne, patronne du groupe chimique Enschemy, promet de s'engager personnellement pour que Berne recommence à négocier avec Washington. Il faut dire que les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse et l'y a exporté pour 57 milliards de francs l'an dernier, plus que dans n'importe quel autre pays. Et puis Donald Trump promet d'imposer de nouvelles barrières douanières sur les produits importés. Un accord de libre-échange pourrait donc préserver les exportations helvétiques vers les États-Unis. En Suisse, les résistances portent surtout sur des questions agricoles, comme l'explique Jacques Nicolet, conseiller national UDC Vaudois.
On doit être très attentif au risque de concurrence déloyale envers notre agriculture avec l'importation de quantités de viande produites selon des méthodes de production qui respectent aucunement les normes qu'on a en Suisse. Je pense notamment à la viande qui est produite avec des hormones, l'utilisation d'OGM, les antibiotiques, l'impact sur le CO2 également avec des élevages qui sont pratiqués d'une façon totalement différente de ce qui est fait chez nous.
Les craintes pour l'agriculture suisse avaient déjà contribué à l'échec des premières tentatives de conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'était il y a près de 20 ans. Et si la nouvelle administration Trump accepte de relancer les discussions avec la Suisse, le protectionnisme paysan sera à nouveau un obstacle de taille.
C'était Marielle Savoie au Palais fédéral. En bref, le pape François évoque pour la première fois les accusations de génocide portées contre Israël à Gaza. Dans un livre à paraître et dont des extraits ont été publiés hier en Italie, le souverain pontife appelle à examiner si la situation correspond à la définition d'un génocide. En Allemagne, les Verts allemands ont désigné ce week-end leur candidat pour les élections du 23 février prochain. Robert Habeck, 55 ans, aura la difficile tâche de relancer un parti en perte de vitesse. Son portrait avec Blandine Milsan.
Docteur en philosophie, auteur à succès de livres pour enfants, Robert Habeck est entré tard en politique, mais sa carrière n'en fut que plus rapide. Ministre de l'Environnement dans le Land du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, il prend la coprésidence du Parti des Verts avant de devenir, il y a 3 ans, ministre de l'économie du gouvernement Scholz et vice-chancelier. Très à l'aise en communication, notamment sur les réseaux sociaux, Robert Habeck est un pragmatique, adepte du compromis, base de la démocratie, dit-il. Malgré les critiques venant de la gauche de son parti, qui lui reproche justement d'avoir avalé trop de couleuvres, et malgré de mauvais sondages, les Verts sont à 11% des intentions de vote, il mènera donc la campagne électorale du parti écologiste, et si cela marche, jusqu'à la chancellerie, a-t-il précisé hier dans son discours. Lucide, Habeck parlait sans doute surtout de la possibilité pour les Verts de participer à une coalition, on le désigne en tout cas comme un candidat idéal pour gouverner avec les conservateurs de la CDU. Blandine Milsan, RTS Info, Berlin.
Le canton de Fribourg ne pourra pas fournir à sa police de nouvelles caméras de surveillance.
Elles peuvent lire automatiquement les plaques d'immatriculation, mais le tribunal fédéral vient de doucher ses ambitions dans un arrêt qui concerne le canton de Lucerne. La haute cour estime que cette façon de faire porte atteinte aux droits fondamentaux. Conséquence, nous l'avons appris, le gouvernement fribourgeois a dû retirer la semaine dernière son projet de loi, une décision prise à contre-cœur par Romain Collot, conseiller d'État en charge de la sécurité.
Bien sûr qu'on avait besoin d'aller d'avant avec ceci, parce que finalement aujourd'hui on se rend compte qu'on a un système un petit peu archaïque. Je veux pas dire qu'on est la risée de l'Europe avec notre problématique d'échange de données entre les cantons. Il faut savoir que c'est plus facile d'obtenir les données sur un criminel étranger qu'entre deux cantons suisses, donc ça pose quand même certains problèmes. Et aujourd'hui on doit absolument clarifier cette position au niveau fédéral pour que les cantons puissent avancer, parce que ça laisse un flou qui est vraiment problématique justement entre cette criminalité qui grandit et les cantons qui n'avancent pas.
Justement, maintenant, les demandes, c'est quoi? C'est au niveau fédéral, il faut mettre un coup d'accélérateur?
Effectivement, il faut mettre un coup d'accélérateur au niveau fédéral pour modifier le code de procédure pénale, qu'on puisse mettre en place cette lecture automatique de plaques et modifier potentiellement les bases légales au niveau fédéral aussi pour l'échange automatique entre les cantons.
Le conseiller d'État Romain Collot avec Mehdi Piquan. Le village grison de Briens a été complètement évacué hier. Les 91 habitants avaient jusqu'à 13 heures pour quitter les lieux, menacés par une importante masse de roches. L'accès à Briens, placé en zone rouge, est désormais interdit jusqu'à nouvel ordre. Les habitants ont tous trouvé un logement de remplacement pour les mois à venir. La tension reste palpable dans les hautes écoles autour du conflit au Moyen-Orient. À Lausanne, la direction de l'EPFL a reçu il y a quelques jours une lettre signée par 80 personnes, selon une information du matin dimanche. Elle dénonce un climat d'intimidation à l'encontre des étudiants et employés juifs et israéliens, avec la présence d'étudiants agressifs ou encore de professeurs activistes solidaires de ces agissements. Les signataires estiment aussi que les organisations dites pro-palestiniennes sur le campus sont plutôt anti-israéliennes, des provocations ressenties jusqu'à l'Union par Jacques Ehrenfreund, professeur d'études juives.
Et c'est l'expression d'un malaise qui est un malaise très profond dans l'ensemble des universités romandes. Il faudra que les autorités universitaires y répondent, parce que les questions qui sont posées sont des questions importantes et sérieuses. Ce qui s'est exprimé depuis le 7 octobre, c'est une forme de soutien à l'islamisme politique, et cette forme de soutien s'est accompagnée de l'expression d'une hostilité à l'encontre des Israéliens et des Juifs, qui est extrêmement grave dans des cadres universitaires.
Des propos recueillis par Robin Baudra. De son côté, le collectif Occupe une île balaye ces accusations. Il dit ne pas avoir perçu d'actes ou de paroles en lien avec l'antisémitisme. L'Assemblée citoyenne 2025 est officiellement lancée. 100 personnes tirées au sort, issues de 4 coins de la Suisse et avec des parcours très variés, se sont réunies pour la première fois à Zurich ce week-end. Ensemble, elles travailleront durant plusieurs mois pour tenter d'apporter des réponses à la problématique des coûts de la santé. Une expérience imaginée par le Centre d'études sur la démocratie d'Aarau et qui présentera ses résultats en mars prochain. Co-organisateur du projet, le politologue Nenad Stojanovic nous explique ce qu'il en attend.
L'objectif principal, c'est d'utiliser un outil nouveau de participation démocratique avec l'usage du tirage au sort pour sélectionner les participantes et les participants. En ce qui concerne le résultat final, c'est vraiment complètement ouvert. Nous ne savons pas quel sera le contenu du rapport final, mais il y a bien sûr l'espoir que tout ce travail puisse être utilisé à la fois par le monde politique, également par l'administration fédérale, en particulier l'Office fédéral de la santé, pour enrichir leur réflexion et leur débat sur les réponses possibles qu'on peut donner à la question « comment prenez les coûts de la santé ?».
Et on termine avec la série la plus vue sur Netflix, 1600 millions d'heures de visionnage, Squid Games, un véritable phénomène de société qui revient donc le 26 décembre pour une deuxième saison. Pascal Vasmer, qu'est-ce qui nous attend ?
C'est quoi ça, s'il vous plaît ?
Attention, 1, 2, 3, soleil !
Ne bougez plus !
J'ai bougé, il se passe rien.
On retrouve le héros, Gi-hun, 3 ans après sa victoire sanglante. Dans Squid Game, les jeux d'enfants sud-coréens se transforment en compétition mortelle. Des candidats endettés s'entretuent pour une montagne d'argent. Et contre toute attente, dans cette saison 2, Gi-hun décide de replonger dans un nouveau jeu mortel, avec à la clé une mise encore plus folle, 300 millions de francs.
J'ai déjà participé à ces jeux avant! Si on joue à plus de jeux, il y aura plus de joueurs qui vont mourir.
Pourquoi tu reviendrais te remettre dans cette galère ?
Un jeu de plus ! Un jeu de plus !
Le créateur s'inspire cette fois des divisions qui fracturent la société sud-coréenne, notamment le conflit entre générations. Aujourd'hui, Squid Game est devenu une machine commerciale mondiale, escape game, jeux vidéo ou produits dérivés. Ironique pour une critique anticapitaliste qui a généré 900 millions de dollars pour Netflix. La saison 3 est d'ores et déjà annoncée pour l'année prochaine.
Squid Game, la suite, c'est le 26 décembre.
Merci beaucoup Frédéric Mamès pour votre journal à 7h16. Bonjour Pietro Bignon.
Bonjour.
On reçoit le ministre de l'économie Guy Parmelin ce matin.
Oui, parce que l'économie suisse patine. Acier, verre, supermarché, imprimerie, partout on licencie. La Suisse est-elle en voie de désindustrialisation ? Que faire ? On voit ça avec Guy Parmelin dans un quart d'heure.
Et puis comme elle indique, Léa Favre à 8h05, elle reviendra sur le travail au lieu de la grande trahison.
RTS, la première, Valérie Auer.
C'est peut-être un changement stratégique majeur dans la guerre d'agression que la Russie mène en Ukraine. Les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée. Kiev pourra ainsi frapper le territoire russe avec des missiles portant à 200-300 km fournis par les États-Unis. Joe Biden a donc fini par dire oui. Volodymyr Zelensky réclamait ces missiles depuis longtemps. Ce oui de Biden tombe juste avant son départ de la Maison-Blanche et juste avant le retour de Donald Trump qui, on le sait, est très critique sur l'aide américaine à l'Ukraine. Bonjour Cédric Massin.
Bonjour.
Vous êtes historien militaire, merci de nous rejoindre ce matin. Déjà, première question pour bien comprendre, quand on parle de missiles à longue portée, on parle de quoi ?
Alors en fait, essentiellement, ce sont ce qu'on appelle les systèmes ATACMS, c'est-à-dire des lance-roquettes à longue portée, qui ont la particularité d'être d'une très grande précision, puisqu'ils sont guidés par satellite. Donc jusque-là, ces systèmes n'étaient utilisables par les Ukrainiens que sous deux conditions. Déjà d'avoir suffisamment de roquettes à mettre dans les quelques systèmes de lance-roquettes spéciaux qui avaient été livrés par les Américains, par les Allemands et les Britanniques. Et puis la deuxième condition, c'était de ne pas les utiliser sur le territoire russe, sauf cas extrême, puisque ces guidages étant contrôlés par des soldats, ou en tout cas par les États-Unis, puisque c'est eux qui contrôlent le réseau satellitaire qui permettait de guider avec beaucoup de précision ces roquettes de grande précision et avec un grand pouvoir destructeur, eh bien, c'était les Américains qui validaient chacun des objectifs qui étaient sollicités par les Ukrainiens, les opérateurs ukrainiens sur place. Donc là, désormais, eh bien, les Américains vont aussi valider des objectifs qui leur seraient désignés à l'intérieur du territoire russe et donc beaucoup plus loin du front lui-même.
Ouais, notamment potentiellement des bases de lancement de missiles russes sur l'Ukraine. Est-ce qu'on est là, selon vous, face à un changement stratégique important ?
Alors, c'est quelque chose qui arrive malheureusement très tard. Ça sera toujours très utile pour les Ukrainiens. Alors, on pense évidemment aux bases de lance-missiles, mais enfin, les missiles sont beaucoup lancés à partir d'avions et à partir de navires depuis la mer Noire, les missiles Calibre notamment, qui ont frappé hier l'Ukraine à plusieurs centaines d'exemplaires encore. Mais c'est aussi... Il y a deux aspects dans cette décision. Il y a déjà l'aspect militaire, puisqu'en effet, ça va faciliter la tâche des Ukrainiens pour essayer de frapper donc ces bases de lance-missiles, mais surtout les bases aériennes d'où partent les avions qui lancent ces bombes planantes, parfois de plus d'une tonne d'explosifs, qui détruisent et qui font beaucoup de mal sur le front aux Ukrainiens, puisque c'est ce qui permet aujourd'hui aux Russes de pouvoir progresser comme ils le font sur différentes portions du front, malgré les fortifications et la résistance et la ténacité et le courage des soldats ukrainiens. Eh bien, ces bombes qui sont lancées de très loin, grâce à un système un kit planant qui a été rajouté ajoutées vont pouvoir écraser les défenses. Donc ça, on va pouvoir peut-être plus facilement frapper ces bases. Les Ukrainiens tentaient déjà de le faire avec des drones bricolés de localement, mais avec un guidage beaucoup moins précis. Et puis, le deuxième effet de cette décision, c'est de mettre la pression sur le président élu en janvier, qui va se retrouver au pied du mur, puisqu'il devra, lui, ça va augmenter les difficultés pour revenir en arrière une fois que les processus et les procédures auront été adaptés à cette décision qui vient très tard. Mmh. Cette décision a été bloquée à la Maison-Blanche, notamment par le Conseil de sécurité Blinken, qui est assez détesté à cause de cela par les Ukrainiens. Et donc, c'est un des éléments qui montre à quel point la présidence Biden n'a pas été à la hauteur des enjeux de ce que ce conflit pose à tout le monde occidental.
Au niveau géostratégique, Vladimir Poutine a toujours mis en garde sur l'utilisation de ses missiles en parlant de ligne rouge. Autrement dit, que si cette ligne était franchie, que si on utilisait ces missiles, ça voulait dire une internationalisation du conflit, que ça faisait jouer un rôle actif aux États-Unis, autres puissances nucléaires comme les Russes, par l'intermédiaire des Ukrainiens. Est-ce qu'on y est là ? On a franchi la ligne rouge ?
Alors, les lignes rouges de Vladimir Poutine, il y en a eu plein d'autres. Jusque-là, elles n'ont jamais eu d'effet parce que Vladimir Poutine n'a pas nécessairement les moyens de menacer l'OTAN, l'Europe et les États-Unis au-delà de rodomontades verbales. Je vous rappelle quand même que les Ukrainiens occupent une partie du territoire russe aujourd'hui, ce qui était aussi une autre ligne rouge. La Russie est une puissance nucléaire qui avait donc le droit, par exemple, d'utiliser l'arme nucléaire pour défendre son intégrité territoriale. Il ne l'a pas fait. Je vous rappelle également qu'en matière d'internationalisation du conflit, nous avons aujourd'hui en ce moment même des soldats nord-coréens qui combattent sur le sol européen. Nous avons des drones iraniens. Nous avons des éléments de plus en plus importants qui montrent des livraisons d'armes et de composants électroniques indispensables au système d'armement russe par la Chine. Donc aujourd'hui, ce type d'accusation-là n'a de valeur que pour ceux qui y croient encore. Donc ce n'est pas ça qui va changer. L'implication des États-Unis et de l'Europe est déjà très importante. Vous ne pouvez pas livrer des F-16 ou les Mirage 2000 français qui vont être livrés à l'armée ukrainienne si vous ne vous impliquez pas, si vous ne nous envoyez pas des formateurs directement sur place. Nous livrons des munitions, des armes. Les systèmes ATACMS sont déjà présents sur place depuis l'été 2022, en fait. Hein. Ces systèmes de roquettes ATACMS, c'est ce qui avait permis aux Ukrainiens de renverser la situation militaire sur le front à la fin du printemps et durant l'été 2022, en ciblant à l'époque en Ukraine, à l'intérieur du front, les dépôts de munitions, et ce qui avait d'un coup asphyxié la logistique russe au moment où ils attaquaient à Kherson et puis ensuite à Irpin, dans le saillant d'Irpin, pour remporter leurs grandes victoires éclatantes.
Mais à vous entendre, Cédric Mas, donc, au niveau stratégique, ça n'ouvrirait pas de nouveaux fronts, une nouvelle dimension de ce conflit pour la suite ?
C'est aujourd'hui tout va dépendre de ce que va décider Donald Trump lorsqu'il arrivera au pouvoir. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qui caractérise Donald Trump, c'est l'incertitude. La deuxième chose qui pourrait changer la situation militaire, ce n'est pas cette possibilité très tardive de frapper dans la profondeur russe un certain nombre de sites stratégiques qui est enfin accordé aux Ukrainiens. La deuxième chose, ça serait de livrer les roquettes qui permettent aux Ukrainiens de frapper ses objectifs, parce qu'il y a toujours cette limitation, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir frapper plus que le nombre de roquettes qui leur seront livrées. Donc quoi qu'il arrive, ça risque malheureusement d'être assez limité, mais bon, peut-être qu'ils ont constitué quelques réserves. Et puis la deuxième chose, c'est la réforme du système militaire ukrainien, qui aujourd'hui montre des limites dramatique au point de d'altérer la confiance que les Occidentaux ont en sa capacité à vaincre la Russie. Aujourd'hui, il y a un problème au sein du commandement ukrainien qui est de plus en plus contesté. Sur le terrain, les brigades et les généraux de brigade, donc on parle d'officiers d'un certain rang, refusent de leur obéir, certains démissionnent même. Les problèmes de la mobilisation de toute l'économie et de tout le pays ukrainien qui a complètement échoué. L'Ukraine n'a jamais été autant dépendante précédente des livraisons d'armes américaines occidentales. Et donc, tout cet élément-là, 3 ans après le début du conflit, nous avons les mêmes chefs qui sont toujours à la tête de l'armée. Je ne connais aucun grand conflit, aucune guerre totale telle qu'on a pu la connaître en Europe, malheureusement, plusieurs fois, où il n'y a pas eu de renouvellement des cadres avec des chefs plus jeunes, plus dynamiques, qui connaissent mieux les situations du front.
Un dernier mot juste sur la politique américaine et comment analyser cette décision de Joe Biden. C'était demandé ces missiles par Volodymyr Zelensky depuis très longtemps. Le oui de Joe Biden arrive très tard, arrive maintenant. Pourquoi, juste avant de quitter la Maison Blanche?
Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la politique américaine, mais de ce que j'en lis de gens plus compétents, c'est un caillou dans le jardin de Donald Trump, comme je vous le disais, c'est-à-dire que ça va rendre un petit peu plus difficile, enfin ça n'arrêtera pas Donald Trump, la décision de revenir en arrière sur la procédure qui est mise en place pour permettre ce type de frappe.
Merci beaucoup Cédric Masse de vos explications et d'être venu dans cette matinale ce matin commenter cette décision donc est tombée hier soir les États-Unis qui autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée pour frapper le territoire russe. Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
RTS la première, la matinale.
À 7h25 on passe à Des jours et des vies.
Dans les épisodes précédents.
2024 is almost certain to be the hottest year on records.
C'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit la semaine passée en ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. 2024 est très certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et d'après Antonio Guterres, ce phénomène est
supercharged by human-made climate change.
Amplifié par les changements climatiques engendrés par les humains.
And no country is spared.
Et effectivement, aucun pays n'est épargné. Pas même le nord de l'Italie et l'une de ses spécialités si savoureuses.
Nom de Dieu, c'est pas le moment d'aller aux truffes.
Des jours et des vies.
Et pourtant, on est en pleine saison, hein. Entre fin octobre et début janvier, c'est la saison de la truffe blanche dans le Piémont italien. Mais il est de plus en plus difficile d'en trouver. Déjà parce que ces 30 dernières années, les surfaces où elle peut potentiellement pousser ont diminué de 30%. La truffe blanche a besoin de peupliers, de chênes et de tilleuls pour naître sous la terre et s'accrocher à leurs racines. Mais la région a préféré des cultures plus rentables comme la vigne et surtout les noisetiers pour fournir la grande firme locale Ferrero. Non, parce que vous comprenez...
Nutella, c'est chaque jour du bonheur à tartiner.
Mais surtout, avec un thermomètre encore à 20 degrés au début du mois et un tanaro qui s'assèche, la truffe blanche n'a plus assez de froid ni d'humidité pour survivre.
La truffe est crémeuse ? Est-elle fraîche ?
C'est si bon quand elle sent fraîche.
Ça a un goût de fruits et de brindilles.
Ah bon ?
Et oui, elle perd aussi son goût si caractéristique et son parfum si raffiné entre le foin, l'ail et le miel, parce qu'elle pourrit plus vite avec les pluies diluviennes. La demande, elle, en revanche, est toujours plus grande, ce qui fait qu'elle atteint des prix stratosphériques. En ce moment, à la traditionnelle foire d'Alba, elle s'échange à 4 500 € le kilo. Oui, et 2 truffes jumelles de 900 grammes ont même été adjugées à un mania de la finance de Hong Kong à 140 000 euros.
Le prix s'oublie, la qualité reste.
Oui, on espère pour lui, mais surtout ça permet au Trifulao de replanter des arbres truffiers, plus de 700 ces 6 dernières années. En revanche, ils pourront rien faire contre le dérèglement climatique. Non, là c'est la 29e conférence internationale sur le climat qui se termine vendredi, qui pourra faire quelque chose.
If my grandmother had wheels, she would have been a bike.
Vous n'avez pas le droit aux truffes.
Ah, vous n'avez pas le droit aux truffes. Ça doit compliquer votre alimentation quotidienne.
Des enfants, c'est l'heure de l'histoire.
Ouais, l'histoire.
Milidée est une petite fée très curieuse. Dans l'émission Brouhaha sur RTS La Première, elle raconte des histoires et répond aux questions des enfants. Un podcast divertissant et éducatif pour bien comprendre le monde qui nous entoure.
Coucou, tu es là?
Retrouvez les 2 nouveaux livres de la fée Milidée sur la nature et Noël en librairie et sur avecvous.rts.ch.
Allez, ciao, bisous!
Infotrafic RTS.
Sur la une, Genève-Lausanne, un bouchon causé par un accident s'étire toujours de Nyon à Aubonne. Le temps de parcours en direction de Lausanne est prolongé de 3 quarts d'heure au moins. Le temps sera passablement nuageux et généralement sec au nord des Alpes avec des éclaircies par moment. En Valais centrale et dans le Haut-Valais, un temps probablement encore assez ensoleillé malgré des voiles de nuages élevés. Les températures pour ce matin, 2 à 5 degrés, pas plus de 10. Cet après-midi, un mot de mardi. Demain, le temps sera perturbé et venteux avec des précipitations fréquentes. Peut-être abondantes ces précipitations régionalement dans la journée. Limite des chutes de neige à 1600 mètres. Ça baissera en pleine à 600 mètres dès mercredi. Il y aura encore un fort vent d'ouest à nord-ouest, parfois tempétueux. Les températures maximales pour demain matin, 3 à 5 et jusqu'à 10 dans l'après-midi.
L'heure avec Apnal et sa pomme de terre, la princesse celtienne de production suisse, disponible à la COP.
Il est 7h30. Le rappel de l'info, Léandre Perret.
L'Ukraine pourra utiliser les missiles à longue portée des États-Unis contre la Russie. Une autorisation de Washington attendue depuis longtemps qui permettra à Kiev de tirer à des centaines de kilomètres sur des sites logistiques russes. Il s'agit d'un changement stratégique majeur au millième jour du conflit, alors que l'Ukraine a été frappée ce week-end par des attaques massives et meurtrières. L'Ukraine qui peut compter sur l'Union européenne, soutien hier de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a qualifié les attaques russes de ce week-end d'horrible. Le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants des pays du G20 à assumer leur leadership. Ils sont actuellement réunis en sommet au Brésil, où ils discuteront notamment de réchauffement climatique. En parallèle, se tient d'ailleurs la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan. Antonio Guterres intime les chefs d'État des plus grandes économies du monde d'aboutir à un résultat positif dans ces négociations de Bakou. New Delhi se réveille enveloppé d'un épais smog gris malsain. La pollution atmosphérique atteinte est 60 fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la capitale indienne, les écoles tiennent depuis ce matin jusqu'à nouvel ordre leurs cours à distance sur décision des autorités. Les particules attribuées au brûlage de chaume dans les champs, aux usines et au trafic sont cancérigènes. Les agriculteurs français rebattent le pavé aujourd'hui. Ils prévoient de manifester dans tout le pays contre la perspective d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, le marché unique sud-américain. Les agriculteurs européens craignent la concurrence des produits importés moins chers et aux normes moins strictes. Première réunion ce week-end à Zurich de l'Assemblée citoyenne. Les 100 Suisses tirés au sort sont chargés de se pencher sur la hausse des coûts de la santé. Ils présenteront le résultat destiné à enrichir le débat démocratique au printemps. Portes et volets clos à Briens. Tout le village a été évacué hier après-midi. Une importante masse de roches menace la zone de la commune d'Albula. L'accès est interdit jusqu'à nouvel avis. Et le numéro 1 du tennis cette saison, c'est bien Yannick Sinner. L'Italien de 23 ans a remporté hier le Master ATP de Turin 6-4, 6-4 face à l'Américain Taylor Fritz, son 8e titre de l'année.
7h32, il est à nos côtés dans notre studio à Lausanne. Pietro Bignon reçoit notre ministre de l'économie ce matin.
Bonjour Guy Parmelin.
Bonjour, mesdames.
Vous avez fait une halte dans notre studio ce matin et on vous en remercie. Une pause café sur votre route entre Bursin et Berne. Vous êtes celui que l'on veut entendre ce matin alors que les annonces de licenciements se suivent et se ressemblent. Comme si un grain de sable grippait l'engrenage. On a besoin de comprendre comment se porte notre économie. Comprendre aussi pourquoi, face à ce constat, vous, la Confédération, refusez de muscler les aides de l'État au risque de faire croître la grogne sociale. On en parlera, mais j'aimerais d'abord vous entendre, Guy Parmelin, sur l'actualité de la nuit, ce feu vert de Joe Biden, le président américain qui a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée. Vous êtes en charge des questions d'exportation d'armes, ancien ministre de la Défense. Ce conflit Russie-Ukraine, il a pris une autre dimension depuis cette nuit.
Je pense que c'est effectivement un changement de paradigme. Quelles seront les conséquences, encore difficiles à apprécier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie avait d'ores et déjà donné certaines menaces si ce pas devait être franchi. Et jusqu'ici, le président Poutine a toujours mis ses menaces à exécution. Mais c'est trop tôt pour apprécier la nouvelle situation.
Mais potentiellement un risque d'escalade, donc.
Oui, tout à fait.
Les États-Unis pourraient avoir franchi la ligne rouge aux yeux de Moscou. Quelle réaction de la Russie aujourd'hui ?
Nous verrons bien. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver dans cette région et aussi au Moyen-Orient, c'est que la situation se calme, que les gens se mettent autour d'une table et qu'on règle les conflits par la diplomatie, ne serait-ce que d'une part pour les civils qui payent le prix extrêmement lourd et puis pour le monde entier parce que nous avons des effets de réaction en chaîne dans le monde entier en termes d'inflation, en termes de coûts, en termes de difficultés d'approvisionnement.
La Suisse, très restrictive en matière de livraison d'armes. Je le disais, les questions d'exportation d'armes, c'est dans votre département. Ce feu vert américain, ça pourrait inciter d'autres pays à livrer des armes plus lourdes aussi?
C'est difficile à avoir. Il y a déjà énormément de livraisons d'armes qui sont faites particulièrement aussi par les pays de l'Union européenne. Concernant la loi suisse sur le matériel de guerre, les deux chambres ont énormément de peine à se mettre d'accord. Pour le moment, à l'époque, nous avions demandé le Conseil fédéral une dérogation. Nous ne l'avons pas obtenue et nous sommes obligés aussi de respecter nos engagements en matière de neutralité. Et c'est la politique que le Conseil fédéral suit strictement.
Et pas d'impact donc immédiat en tout cas pour la Suisse. Guy Parmelin, vous êtes en charge de l'économie. On va s'arrêter maintenant sur l'état de cette économie avec un constat. L'industrie lourde est à la peine dans notre pays. Prenons l'acier. Vendredi dernier, Swiss Steel a annoncé la suppression de 130 postes à Emmenbrücke. La série de Gerlafingen a déjà aussi procédé à plusieurs vagues de licenciements cette année. Et si ces deux usines venaient à disparaître, la Suisse alors perdrait ses dernières fonderies d'acier. Tout le monde réclame une aide de l'État. Jusqu'ici, vous avez toujours dit non. Est-ce que vous avez révisé votre jugement durant ce week-end ?
Mais je crois que pour vos auditeurs, il faut comprendre la situation. Il y a des surcapacités dans le monde entier et dans l'Europe en matière de production d'acier. La preuve, c'est que l'annonce de Swiss Steel de supprimer 130 postes sur son site d'Emmenbrücke, elle a aussi parallèlement annoncé 670 suppressions de postes en France, en Allemagne, des pays qui subventionnent massivement leur industrie d'acier et qui ferment paradoxalement aussi certaines usines. La Suisse ne fait pas rien. Le Conseil fédéral utilise toute la marge de manœuvre qui est à sa disposition. Nous accordons la réduction horaire du travail. Nous avons étendu de 18 à 24 mois. Ça permet d'essayer de casser ces creux qui sont cycliques dans ce type de production. Le Parlement et le Conseil fédéral ont mis sur pied la loi sur le CO2, la nouvelle loi sur le CO2. La loi sur l'innovation et le climat, il y a aussi des programmes intitulés Pro Kilowatt qui permettront ces prochaines années, dès le 1er janvier de l'année prochaine, d'utiliser des centaines de millions, 200 millions entre autres d'argent par année ces 6 prochaines années pour décarboniser. Et ça, c'est utile pour toutes les entreprises, les PME, les grandes. C'est pas une politique qu'on appelle verticale, c'est une politique horizontale. Et ces aspects-là sont sur la table. Maintenant, le Parlement semble estimer que ce n'est pas suffisant, mais le Conseil fédéral, je répète, a épuisé toute sa marge de manœuvre. Il y a une commission qui siège aujourd'hui à Berne et qui travaille sur une autre piste concernant la diminution des coûts du réseau. Nous verrons ce qu'il en sort.
Oui, diminution du coût du réseau électrique avec une alliance transpartisane qui comprend votre parti, l'UDC, le Parti Socialiste aussi. En gros, un rabais sur les factures d'électricité pour ces entreprises qui consomment beaucoup d'électricité. Ça, c'est une bonne piste à suivre.
Alors, il faut bien voir qu'à la fin, il y a quelqu'un qui paye la facture. Ça dépendra de la délimitation. Est-ce que c'est seulement pour une, pour deux, pour tout un secteur d'entreprises fortement qui ont une intensité énergétique extrêmement forte. Il y en a plus de 200 en Suisse, mais ça veut dire que d'autres devront payer la différence puisque les suppléments sur le réseau doivent permettre les investissements voulus lorsque nous avons décidé de sortir du nucléaire et de donner une plus grande partie aux énergies renouvelables. Donc ça veut dire que c'est peut-être le consommateur ou les PME qui devront payer pendant un certain temps la différence. Mais encore une fois, je le répète, le Parlement et cette commission va se saisir de ceci. On parle peut-être d'une loi fédérale urgente. Nous verrons pendant la session de décembre ce qu'il en est.
Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un intérêt stratégique, économique, écologique aussi à ce que cette production d'acier, en l'occurrence, soit possible chez nous?
Alors ce que je vais dire, c'est peut-être dur, j'entends, c'est toujours quand il y a des licenciements, quand il y a des secteurs qui souffrent pour la région, pour les familles, c'est toujours pénible. Encore une fois, il y a une surcapacité. Il y a autour de la Suisse, dans un rayon de 150 km, plus de 10-15 aciéries qui produisent les tonnes d'acier qui seraient nécessaires à la Suisse. Naturellement, nous importons de l'acier à 99% de pays de l'Union européenne, et dans certains cas, c'est aussi de l'acier qui est produit selon les mêmes caractéristiques entre guillemets vertes que le fait par exemple Stahl Gerlafingen. Donc pour la Suisse, c'est pas, comme on le dit en bon allemand, système relevant. Ça veut dire que on peut substituer ceci. C'est un secteur qui se restructure. On a oublié aussi dans toute l'histoire de l'industrie qu'il y a ces vagues de restructuration. Et la Suisse en est toujours bien sortie en essayant d'anticiper ou de se réorienter dans d'autres secteurs.
Mais la Suisse était intervenue pour sauver ses entreprises électriques, par exemple, lors de la crise énergétique.
Là,
parce que là, il n'y a pas de poids de mesure.
Non. Alors, il peut y avoir deux poids de mesure quand on l'apprécie ainsi, mais le risque était ici systémique. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir une réaction en chaîne qui aurait entraîné par cascade une récession, par cascade des énormes problèmes à toute l'économie suisse. C'est la même chose avec les grandes banques qui sont qualifiées de systémiques. Il y aurait une réaction en chaîne, non seulement en Suisse dans ces cas-là, mais aussi dans le monde entier. C'est peut-être difficile à expliquer pourquoi, dans certains cas, il faut laisser les restructurations se faire et les évolutions se faire, et dans d'autres cas, l'État doit absolument intervenir sous peine de catastrophe. On a vécu ceci pendant la crise Covid aussi.
Ouais. Le secteur de l'acier n'est pas le seul touché. Il y a aussi le verre, et on sait de ce qu'il en est en Suisse romande, avec Vetropack qui a éteint ses fours cet été. L'aluminium également, Novelis en Valais, fortement touché par les intempéries. Est-ce qu'on a un problème de désindustrialisation en Suisse?
Je pense pas qu'il faut le déterminer comme ceci. Encore une fois, dans toute l'histoire, il y a eu régulièrement des évolutions, des caps où il fallait se réorienter, il fallait se restructurer, il fallait se réorienter dans d'autres directions. La Suisse a toujours éviter de vouloir maintenir à bout de bras, à coup de plusieurs dizaines ou centaines de millions de francs, des industries qui, sous la forme actuelle, n'avaient pas d'avenir. Et ici, on est dans une de ces phases délicates. D'ailleurs, un de vos confrères en Suisse alémanique a fait le calcul ce week-end. Ça impliquerait certainement plus de 100 millions de soutien par année.
Et la Suisse n'a pas assez d'argent?
Pardon?
La Suisse n'a pas assez d'argent?
Premièrement, le Conseil fédéral n'a pas la marge de manœuvre légale suffisante. Et deuxièmement, il faut se poser la question si cet argent n'est pas mieux investi dans, par exemple, du chômage partiel, mais aussi dans des programmes qui permettent à toutes les entreprises de passer le cap de la décarbonisation qui nécessite des gros investissements.
Et il y a aussi Migros qui licencie, La Poste, Novartis, UBS, Tamedia, la RTS. Est-ce que l'économie suisse est en train de ralentir? Est-ce que ça vous inquiète, Guy Parmelin?
Bon, ce sont jamais de bonnes nouvelles. Nous avons un groupe d'études conjoncturelles à la Confédération. Il y a plusieurs instituts privés qui font des projections. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces dernières années, nous avons, la Suisse, d'une manière générale, a engagé énormément de personnel. Le taux de chômage est historiquement extrêmement bas, même s'il est monté ces dernières années. Et je pense que nous sommes dans une phase extrêmement délicate. Les conflits internationaux, les restructurations internationales sont aussi une des raisons. Pensez simplement que la vague d'électrification du secteur automobile, et notre client principal c'est aussi l'Allemagne, il faut 40% d'acier de moins dans des voitures électriques, et le fait que des grands constructeurs comme Volkswagen sont en train aussi de restructurer et de fermer certaines usines, c'est pas quelque chose qui va nous aider dans cette phase délicate.
Une phase délicate pour l'économie suisse, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une forme de grogne sociale qui monte avec ces vagues de licenciements?
Alors naturellement, c'est jamais des bonnes situations pour les autorités, qu'elles soient cantonales ou fédérales. J'ai eu l'occasion de recevoir...
Vous la percevez-vous, cette grogne sociale?
Écoutez, on le voit, il y a des manifestations régulièrement. Par exemple, pour Stahlgerlafingen, j'ai même reçu une délégation. On nous a remis une pétition. J'ai eu une très très bonne discussion avec les ouvriers. Je le répète encore une fois, c'est une phase extrêmement difficile qu'on est en train de vivre. Mais dans l'histoire, il y en a eu plusieurs. Maintenant, le Conseil fédéral a utilisé toute la marge de manœuvre qui est la sienne. Le Parlement essaye d'analyser d'autres pistes et nous verrons si celles-ci se concrétisent.
Le Conseil fédéral est toujours en phase avec les inquiétudes de la population, Guy Parmelin. Je vous pose la question parce que on a l'impression d'une forme de rupture entre votre discours et les préoccupations de la population, une série de défaites en votation aussi qui pourrait par ailleurs s'allonger le week-end prochain.
C'est difficile à dire. Les échos que j'ai quand je suis dans le terrain me montrent toujours une confiance des citoyennes et des citoyens, mais c'est aussi des aspects cycliques. Et puis par rapport aux votations de dimanche prochain, je pense qu'il faut attendre les résultats.
On verra ce que ça donne. Alors la question maintenant, c'est comment rebondir? Comment l'économie suisse peut-elle dépasser cette phase compliquée? Est-ce que la relance passera forcément par de nouveaux accords commerciaux? On pense bien sûr aux États-Unis avec le retour de Donald Trump.
Alors, ce qu'il faut bien voir, nous vivons actuellement une politique de bloc. Vous avez l'Union européenne, la Chine, les États-Unis pour caractériser ceci. Et des petits pays ou des petites économies comme la Suisse, nous sommes 9 millions, nous avons un très petit marché intérieur. Notre salut passe par une très grande diversification. C'est pour ça que nous essayons de signer de nouveaux accords de libre-échange. Ça permet d'offrir des nouveaux marchés à nos entreprises. L'Inde en est un exemplaire, mais pas seulement. Mais ça ne résout pas l'ensemble de la situation. Quand vos gros clients, que ce soit l'Allemagne ou bien les États-Unis, tous, vous avez des répercussions inévitablement. Mais ça peut aider, et surtout, ce qu'il faut espérer, c'est que l'aspect multilatéralisme revienne à l'ordre du jour. Or, malheureusement, on voit plutôt une vague de protectionnisme arriver avec des mesures taxes, contre-taxes, mesures de rétorsion. Et ça, la Suisse risque d'être prise dans le feu croisé de ces différentes mesures. C'est un des soucis que nous avons.
Mais vous allez vous engager pour un accord de libre-échange Suisse-États-Unis ces prochaines années?
Alors, si on refait un peu l'histoire, lorsqu'il y a eu l'administration Trump numéro 1, nous avions exploré et puis nous avions finalement nous ne sommes pas allés au bout de l'exercice. Du côté de l'administration démocrate, c'était très clair, c'était pas à l'agenda. Par contre, ce qui était souhaité, c'est que sectoriellement, on analyse des secteurs, on les identifie, et si nous trouvions des solutions pour améliorer la situation, alors il y avait une ouverture. C'est ce que nous avons fait dans le secteur des contrôles réciproques en matière de pharma, et là nous avons signé un accord. Maintenant, je suis prêt à refaire un état des lieux, mais il faut refaire des discussions exploratoires, il faut bien analyser est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a trop de risques, et puis nous verrons bien. Il faut déjà surtout attendre que l'administration Trump soit en place et voir quelles sont ses vraies priorités.
Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge de l'économie, vous avez eu 65 ans ce mois-ci, vous êtes le doyen au conseil fédéral, doyen de fonction et doyen tout court, hein. Vous êtes le plus âgé. Vous allez aller jusqu'au bout de cette législature jusqu'en 2027?
J'ai été élu pour toute la législature, c'est la règle. Pour le moment, je me sens bien, j'ai une équipe autour de moi qui est motivée, et les problèmes ne manquent pas. Et je dis toujours à mon équipe, il y a les problèmes, la bonne nouvelle, c'est que nous, on est là pour chercher les
solutions. Et vous serez là jusqu'en 2027?
En principe, oui. Vous êtes élu pour une législature. Bon, sous réserve des problèmes de santé, ça c'est clair.
Mais comment va votre bras? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on...
Mon bras va bien, il va très très bien même.
Il fonctionne bien?
Oui, j'ai eu de la chance dans le malheur, j'ai toujours eu gardé la mobilité. Simplement, mon médecin m'a dit qu'il fallait pas pratiquer le kung-fu ces prochains
jours. ce qui n'est pas
à l'heure du jour.
Guy Parmelin, notre invité ce matin, ministre suisse de l'économie, conseiller fédéral.
La revue de presse avec Valérie Drou et Zurich. Valérie qui veut former plus de médecins.
Le Grand Conseil zurichois doit se prononcer aujourd'hui sur une intervention urgente, lit-on dans le Tag Sandsager. Elle veut cette intervention augmenter le nombre de nouveaux étudiants accueillis chaque année. À l'horizon 2028, 880 contre 380 aujourd'hui, donc plus du double. Cette proposition pourrait bien passer la rampe du législatif, soutenue qu'elle est par une large alliance interpartie. Alors le texte souligne la pénurie à venir, ou déjà là, suivant les régions, et aussi la dépendance de la Suisse à l'étranger. Aujourd'hui, 40% des médecins viennent de l'étranger. Le TAGI rappelle aussi que les études de médecine coûtent cher. Au canton, on parle de 100 000 francs par étudiant par année, y compris les coûts de la recherche. 500 étudiants en médecine supplémentaire, ça coûterait donc 50 millions de francs par an au canton de Zurich. Formation encore, mais un peu plus à l'est. On est en Suisse orientale avec le Sangaller Tagblatt. Il explique ce matin que c'est là, en Suisse orientale, qu'il y a le moins de garçons au gymnase de tout le pays. Alors pourquoi? Eh bien, selon une experte, c'est à cause du plan d'études 21. Il encourage ce plan les compétences telles que s'écouter s'écouter les uns les autres, s'impliquer émotionnellement. Elle suppose, cette experte, que les garçons ont plus de peine que les filles avec ces aptitudes sociales. Il faudrait aussi donc valoriser les compétences garçons, dit-elle. Les directions d'école estiment pour leur part qu'elles doivent offrir des chances de formation et non atteindre un quota, et de souligner que la formation duale est de grande qualité et qu'il y a perméabilité entre les filières.
On parlait des compétences garçons, la masculinité est en question aussi dans vos journaux.
La masculinité, ou plutôt les masculinités, mises en évidence dans Le Courrier. Le journal explique que les progrès contre les violences sexuelles passent par un questionnement sur la virilité. Le journal a recueilli plusieurs témoignages d'hommes qui s'interrogent justement et qui disent les stéréotypes puissants que subissent les hommes, stéréotypes qui pave le chemin des inégalités, lit-on, et fragilise les hommes. On nous apprend à faire l'homme, explique un témoin, pas à être des hommes. Et cette pression qui commence dès l'enfance, c'est les filles qui pleurent. Violence sexuelle, violence conjugale, aussi dans la presse ce matin, Le Nouvelliste, Arc Info, le journal du Jura et La Côte poursuivent leur série. Aujourd'hui, ils se penchent sur les mesures prises par la Suisse pour lutter contre ces violences conjugales. Des mesures dont les effets se font encore attendre. Il reste aussi beaucoup de lacunes, disent les journaux. Et elles sont listées, ces lacunes, il y en a 10, comme par exemple un manque de place d'accueil, un manque de financement, un manque de suivi en temps réel des auteurs via bracelet électronique ou encore une coordination compliquée, notamment en raison du fédéralisme.
Ce fédéralisme qui n'est plus adapté au XXIe siècle pour les forces de police.
Et c'est un policier qui le dit, pas n'importe lequel, le commandant de la police cantonale argovienne, Michael Leupold, c'est dans l'Argauer Zeitung. Il trouve qu'au XXIe siècle, avoir encore 26 polices cantonales, c'est anachronique. Nous essayons, dit-il, de lutter contre la criminalité du 21e siècle avec des structures du 19e. La Suisse, souligne-t-il, n'est qu'une seule et même zone de criminalité. Dans des domaines comme la surveillance des communications ou de l'investigation secrète, il devrait y avoir qu'un seul centre de compétence pour tout le pays. L'échange systématique de données entre les corps de police cantonaux serait la première étape pour remédier au dysfonctionnement du système policier actuel.
Renaud Capuçon assure, lui, sa défense ce matin dans 24 heures.
Renaud Capuçon, grand violoniste et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'OCL, est accusé depuis l'été dans différents journaux de gourmandise pécuniaire. Des accusations tombées au moment même où l'OCL annonçait cet été un déficit de plus d'1 million. Alors il n'a rien à voir avec le budget, se défend-il en sa qualité de directeur artistique. Il suggère des projets qui lui paraissent intéressants et on lui dit oui. Ou non.
C'est ce qu'il avait dit exactement sur cette antenne quand on l'avait reçu. On s'en souvient. Et pour terminer, Valérie, 10 conseils pour être moins accro à son smartphone.
C'est le temps qui nous les donne, ces conseils, après la publication la semaine passée d'un sondage disant que 40% des adultes présentaient des signes évidents de dépendance. Parmi ces 10 conseils, réduire le nombre de notifications, supprimer les applications de réseaux sociaux pour ne les consulter que sur son ordinateur, voire changer de téléphone carrément le week-end, mettre sa carte SIM dans un téléphone basique à touche, sans écran tactile, ni application.
Est-ce que vous êtes accro à votre smartphone, Guy Parmelin?
Imaginez. Si vous posez la question à mon épouse, elle vous dira oui.
Et vous?
Mais je ne pense pas.
Ah non?
Non, non, parce que, naturellement, je l'utilise souvent
dans la
quand
cuisine.
Je suis...
C'est tout faux, c'est tout faux.
Non, mais quand je suis dans les trajets, c'est là que je peux m'informer en voiture. Je vais retourner à Berne, je vais certainement regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être avoir un contact aussi avec mes gens. Mais de là, être accro, je ne pense pas.
Quelle est l'application que Guy Parmelin utilise le plus?
C'est difficile à dire, je pense que c'est l'application des sports,
RTL voilà.
Sport.
Vous avez une
parce que j'aime bien venir au courant des résultats.
C'est bien de faire des vides par moment. Dans la presse aussi, Zurich qui veut former davantage de médecins, 500 de plus pour lutter contre la pénurie en Suisse notamment. Aujourd'hui, 40% des médecins viennent de l'étranger. Est-ce que c'est une situation acceptable?
C'est une situation qui est vécue dans toute l'Europe, hein. Faut bien voir que c'est pas seulement en Suisse. Le Parlement et le Conseil fédéral avaient, lors du précédent message sur la formation, la recherche et l'innovation, consacré plusieurs dizaines de millions, même 100 millions, pour augmenter le nombre de diplômés de médecins. La constatation du canton de Zurich va même plus loin. Maintenant, la question qui se pose, il avait aussi été mis en évidence qu'un certain nombre de personnes qui suivent les études de médecine, après, les interrompent rapidement. Si je me rappelle bien d'un chiffre, ça devait être 30 ou 40% qui quittent après le secteur. Et vous l'avez dit vous-même, c'est une filière d'études qui est extrêmement onéreuse. Il y a actuellement, qui est traité dans le cadre du budget, la volonté dans le nouveau programme quadriennal formation, recherche, innovation, un certain nombre de millions qui ont été consacrés aussi, qui peuvent être consacrés pour encore améliorer la situation. Mais c'est un problème récurrent.
Est-ce qu'il y a trop de compétences « filles » entre guillemets dans le programme 21 ?
Plan d'études.
Plan d'études 21, voilà, ça me manquait.
Alors,
à savoir qu'il y a moins de garçons en gymnase parce qu'on favorise les compétences.
Écoutez, c'est difficile à dire. Je suis pas dans tous ces détails. Vous l'avez dit aussi, il y a le fédéralisme. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'à l'époque, dans mes études gymnasiales, en latin-anglais, nous étions 5-6 garçons, et il y avait 15 filles, et c'était exactement le contraire dans les mathématiques, latin-mathématiques spéciales. Est-ce que ça a changé? Je l'espère, parce qu'on aimerait davantage de jeunes filles qui embrassent une carrière d'ingénieur, et ça serait quelque chose de bien, mais je ne suis pas entré dans tous ces détails.
Apparemment, c'est en train de changer puisqu'il y a de plus
en
plus de
filles. En tout cas, en Suisse orientale,
de moins de garçons dans les gymnases. On vous garde encore un instant, Guy Parmelin. On passe à notre chronique sur le monde du travail, comme un lundi, avec Cléa Favre, qui nous dit ce matin que le travail est un lieu très, très propice à la trahison.
Voilà ce que nous apprend une étude publiée dans le Journal of Community and Applied Social Psychology. Vous avez d'ailleurs sûrement été vous-même rattrapé par la cruauté de ce monde alors que vous vaquiez tranquillement à vos activités rémunérées, soit en tant que victime d'un acte de félonie de bureau caractérisé, soit vous êtes cet être perfide qui plante les couteaux dans le dos ingénu de ses camarades. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des exemples. Marceline transfère tout un échange de mails à votre chef, échange à l'origine rien qu'entre elle et vous, et dans lequel il y a cette phrase malheureuse signée de votre main « J'en peux plus de l'avoir sur le dos, ce gratte-papier qui ne capte rien à ce qu'on fait ». Autre illustration, votre supérieur direct appose sa signature au bas d'une présentation qui vous a pris toute la nuit et elle tient conférence avec vos théories le seul jour de l'année où la grande CEO rend visite à votre équipe.
Le travail est un terrain si favorable à la trahison, Cléa.
Eh bien, déjà, ce constat, ça a été une surprise totale pour la chercheuse qui a mené cette étude. Au départ, Fanny Lalo, docteure en psychologie sociale à l'université de Bâle, a demandé à 900 participantes et participants de lui raconter une trahison. Elle pensait plutôt à des choses pas jolies dans les couples, des conflits entre amis. Mais spontanément, 13% des gens lui ont rapporté des fourberies sur fond de moquettes grises et de chaises à roulettes. En tête, dans le cadre du travail, manipulation et stratagème visant à tirer profit de la victime.
Pourquoi tu m'as fait ça, je te faisais confiance.
Le machiavélisme s'invite à tous les étages, entre collègues. Le vol d'idées est par exemple très courant. Ça concerne aussi les supérieurs hiérarchiques. Ils mentent sur le contenu réel d'un poste, promettent des promotions qui ne viennent jamais ou blâment un employé pour une erreur qu'ils ont commise eux-mêmes. En revanche, c'est plus rare qu'une personne plus bas dans la hiérarchie trahisse son ou sa chef.
Alors pourquoi tant de duperies dans le cadre professionnel ?
Ça tient probablement au type de relation qu'on entretient avec nos collègues, explique Fanny Lalo, l'auteur de cette étude.
Du point de vue de la personne qui va trahir, on a probablement moins à perdre de si la relation venait à s'étioler à cause de l'acte qu'on va commettre. Donc c'est plus facile probablement au travail d'être égoïste ou d'être déloyal et de poursuivre ses intérêts propres par rapport à la relation à autrui.
J'ai moins investi, Valérie, dans ma relation avec vous qu'avec mon meilleur ami. Si vous me boudez, ce ne sera pas si grave. Donc désolée, mais je serai moins regardante quand il faudra choisir entre mes intérêts et les vôtres.
Je vous remercie d'avance. Comment on réagit, Cléa, quand on est trahi dans le cadre du boulot ?
Avec moins de tristesse, mais plus de colère que sur le terrain privé.
Je m'en suis mis quelques fois dans les poches, mais je t'ai jamais fait des coups foulés. Jamais. Mais toi, un mec qui n'a aucune parole, t'es qu'une sale punaise.
Et plus on éprouve de la colère, moins on est enclin à pardonner. Avis à toutes les punaises, la prochaine fois que vous planifiez un coup fourré, vous gagnerez peut-être, mais on s'en souviendra. Et selon les experts, plus on est en colère, plus on est tenté par la vengeance.
Merci à vous, Cléa Favre. Une séquence en rediffusion. Guy Parmelin, je vous voyais sourire. Ça vous parle, cet univers-là ? Vous le vivez aussi ?
Ça me rappelle, non, pas particulièrement, mais ça me rappelle un film avec Andy McDowell et Harrison Ford où exactement il se passe ceci. Une jeune a un projet excellent. Et puis sa chef essaye de le lui piquer. Mais ça se termine bien, comme dans tous les bons films américains.
Au Conseil fédéral non plus, jamais de trahison.
Ah, oh, ça, le Conseil fédéral, nous faisons de la politique.
Voilà,
nous la faisons derrière les portes.
Il y a quelques coups fourrés de temps en temps.
Non, 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 chacun défend ses intérêts. Il les défend de la façon qui lui semble la meilleure.
Mathieu Vildavert, bonjour Mathieu.
Bonjour Valérie.
Les accents ce matin, dans Parlons Peu, Parlons Bien, avec ses régions et ses langues nationales, notre cher Suisse nous en propose des insolites parfois.
C'est un sujet moins populaire. Pourtant, les accents auront bel et bien une conséquence sur la perception d'un discours. Lorsqu'une personne s'exprime dans une langue qui n'est pas la sienne, nous parlerons d'un accent ethnique. Lorsqu'une personne s'exprime dans sa langue maternelle, mais avec des sonorités propres à sa région, nous parlerons d'accent régional. Concernant les accents ethniques, les orateurs ont cette fâcheuse tendance à s'excuser avant de prendre la parole. Au regard de la confiance, c'est une erreur. En rhétorique, cette confiance se gagne en travaillant trois axes. La preuve scientifique, l'expérience personnelle et la motivation. C'est ce qui nous intéresse avec les accents. Une personne qui fait l'effort de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne démontre une motivation accrue. Comme un sportif, sur un terrain de foot par exemple. Et ça, c'est excellent pour créer de la confiance.
Et quel est le problème avec les accents alors, Mathieu ?
La glottophobie désigne les discriminations linguistiques. Et qu'on soit clair, nous nous sommes toutes et tous autour de cette table, une fois déjà moqués d'un accent. Lorsque des Neuchâtelois, des Jurassiens ou des Vaudois parlent français, ils ne doivent pas fournir d'efforts supplémentaires, comme si c'était une langue étrangère. Nous perdons donc cet apport lié à la motivation en rhétorique. Il ne reste plus que les variations sonores qui, elles, prêtent à sourire. Les accents régionaux ont beau être rattachés à de l'authenticité, retenez qu'ils peuvent décrédibiliser l'oratrice ou l'orateur. Parce qu'en toute transparence, Valérie, une déclaration d'amour ou un discours officiel qui sonne comme ça.
Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barovo Valtine, c'est de la dynamique.
Eh bien, ça prête un tout petit peu à sourire.
Ouais, ça c'est vrai. Guy Parmelin, est-ce qu'on vous a déjà enquiquiné avec votre accent vaudois ?
Oh, certainement, mais c'est toujours extrêmement gentil. Mais... ce que vous avez dit, c'est juste, si vous faites un effort, et je le vois avec la Suisse alémanique, si les romans faisaient l'effort d'essayer de s'exprimer en allemand, d'aller dans l'autre région, c'est extrêmement apprécié, même si vous faites des fautes. Et moi, j'ai toujours vécu des excellentes expériences quand je vais en Suisse alémanique. Maintenant, en général, je fais plus que des discours, des interventions de 10, 12 minutes, et après, je reste trois quarts d'heure pour débattre avec la salle. Alors, parfois, c'est un petit peu délicat, parce que vous travaillez sans filet, mais c'est très apprécié.
On vous a enquiquiné sur votre anglais. Vous avez dit « I can English understand, but I prefer répondre en français ». On s'en souvient bien tous. Ça va mieux.
Depuis, j'ai fait certains progrès. C'est travaillé. Et dans les conférences internationales, c'est vrai que si vous êtes à la Banque mondiale, j'ai aussi pris des cours d'anglais, mais d'anglais économique, parce que c'est un vocabulaire totalement différent que l'anglais de tous les jours.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Je vous en prie, merci pour l'invitation.
Très bonne journée à vous.
Merci, vous aussi.
Retrouvez la matinale en vidéo.